Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Il a été enregistré au Théâtre 121 de l'Institut français de Casablanca pendant le festival Amouage.
Donc dans cet épisode spécial de Jeans Podcast, on va se demander si amour et humour font bon ménage. On va plonger la tête la première dans le grand bain des paradoxes qui font notre chère société marocaine. Je dis toujours qu'au Maroc, on navigue entre les on-dit et les non-dits. Soit encore entre le tsbergig et l'achouma. On a une gêne, on a une pudeur, on a une honte de ce qu'on pourrait dire de nous ou de ce qu'on dit tout simplement. Et c'est précisément cette vérité cachée, indicible, ineffable, inavouable qui provoque chez nous ce rire très particulier. C'est que le rire, c'est une réaction très très humaine. Ça désamorce le tabou. Alors, quand on ne sait pas comment le dire, on le dit autrement. On se donne des surnoms, on se charrie, on se défie avec des réparties. On traduit nos émotions par des mimiques assez clownesques. Moi, à l'inverse, j'ai choisi le mot le plus tabou qui soit, c'est-à-dire « jeans », qui veut dire « sexe » en arabe. Donc, je le répète partout et tout le temps, « jeans, 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 jeans », jusqu'à ce que ça vous mette mal à l'aise, et puis qu'après, ça ne vous choque plus. Le sexe, ça nous fait rougir de honte, ça nous fait rire nerveusement, parce qu'on est collectivement paralysé par l'achouma. Au Maroc, on dit par exemple, pour éviter de dire le mot « jeans », on va dire « le psala ». On va dire faire des bêtises. Sinon, on sait bien, c'est bien le problème aussi ici, c'est que toute atteinte à l'ordre patriarcal devient un attentat à la pudeur. Ça devient un outrage à l'ordre public. Ça devient un acte impudique ou dit contre nature. C'est pour ça qu'il est fondamental que les lois liberticides à l'encontre de toutes les sexualités soient abrogées. Dans Jeans, comme certains le savent sûrement ici, je clame haut et fort, ô combien les cultures maghrébines, les cultures arabes, les cultures musulmanes sont infiniment compatibles avec la notion d'amour. Comme vous le savez très bien, Fatema Mernissi, qui est une des plus grandes figures du féminisme marocain, s'est appuyée sur l'histoire arabo-musulmane pour dénombrer pas moins de 50 noms de l'amour. Vous avez évidemment l'amour que vous connaissez, l'hub, mais vous avez aussi l'hawa, vous avez l'amour comme feu érotique, l'eshq, l'amour comme manque de l'amant absent, l'shouq, l'mahabba, l'khula, sababa, etc., etc. Mais bon, dans le vocabulaire arabe dialectal, on va dire plutôt kanbrik, je te veux. On va dire kanmout alik, je t'aime à mourir. Et puis, qui a mieux dit l'amour que celles et ceux qui l'ont chanté? Je parle de, bien sûr, de Fairouz, de Abd al-Halim, Oum Kulthoum, Chab Housni, ne pas oublier le rail, bien sûr. Évidemment, Hajar al-Hamdawiya, et oui. Les chikhats aussi ont incarné l'idéal absolu de la féminité assumée avec un chant d'amour, un chant de sexe assez cru, sans rougir, en nous faisant plutôt danser, plaisir et puis rire. Et donc, je dis que l'islam et l'amour, ça peut parfois être synonyme. L'islam et l'humour sont aussi très compatibles. Ça n'a jamais été une religion de l'austérité, comme on veut bien nous le faire croire, ni de la sévérité, de la pratique.
Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime à la troisième personne et affirme « Il fait rire et il fait pleurer, il fait mourir et il fait revivre. » « Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. » Sourate 53, versets 44-45.
Donc le rire fait partie de la vie et des dons de Dieu à l'humain. On ne doit pas avoir honte de rire. Le texte coranique donne donc tort aux rigoristes qui ont les sourcils froncés.
Le prophète aurait même été reconnu comme un sacré farceur. Dans ses récits des imbéciles et des stupides, le savant irakien de Bagdad, Ibn Jawzi, disait déjà au XIIIe siècle que la détente et l'humour sont plus que licites, c'est utile pour notre foi. Il nous raconte une histoire.
C'est l'histoire de Hamdallah qui était un des compagnons du prophète alayhi salam et qui reçoit le récit du prophète sur les enfers. Et donc ce compagnon-là commence à pleurer en ayant peur des enfers. Il retourne chez lui et de manière assez nerveuse raconte ça à sa famille et il en rit à gorge déployée. Il rit. Il revient chez le prophète, alayhi salam, et il dit « Je suis désolé, j'aurais pas dû en rire. » Et le prophète lui répond cette chose très importante, il lui dit « Il y a un temps pour tout. » Donc, rire et aimer ne sont pas des péchés. Heureusement, parce que l'humour marocain est connu et reconnu. Les Marocains sont malins, on dit qu'ils sont kafzines. Notre sens aiguisé de l'observation, nos expressions hilarantes. L'humour, c'est un peu notre épice à nous, secrète, avec des blagues parfois très salées et d'autres qui sont plus hamdines, comme on dit ici, qu'on retrouve de Qalindina jusqu'à Ras el Hanout. Rappelez-vous aussi au primaire de l'espièglerie de Joha. Rappelez-vous pour nos aînés et ceux qui pleuraient de rire devant Adil Imam. Rappelez-vous bien sûr vos crampes aux zygomatiques lors du Marrakech du rire de Jamel Debbouze. Et rappelez-vous les fous rires en famille de Kbour et Shaibiya, qui sont incarnés par Hassan El-Fed et Donia Boudazout pendant Ramadan. Rappelez-vous évidemment qu'à l'époque, il y a une quinzaine d'années déjà, même les hommes imitaient Chouchou, le personnage phare de Gad Elmaleh, qui, je le rappelle, était une femme qui se sentait trans, une femme transgenre, qui n'avait aucun problème avec, comme il le disait à l'époque, l'homosexualité. Et tous les humoristes ont frôlé l'insolence. Ils ont utilisé l'humour qui flirte avec l'interdit, justement pour nous plier en quatre. Et l'humour est leur arme de déconstruction massive. Alors, je vous propose aujourd'hui, ensemble, de rire en darija, en amazigh, en français, parce que le rire, c'est tout terrain, et de se rappeler quand même, en ces temps sombres, parce qu'on le sait tous ici, on doit se souvenir de ce que Rappeler nous disait, « Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. » Et je dirais même de la femme. Et en parlant de femme, je vous demande d'accueillir The Woman of the Hour, la star, la coqueluche du Maroc, aujourd'hui, aux multipersonnalités, Asma Al Arabi.
Merci et bonjour à tous.
Alors Asma Al Arabi, si vous vivez dans une grotte, c'est qui ? C'est une humoriste, une étoile de l'humour marocain. Elle est directrice d'une agence qui s'appelle Silsila. Alors Asma Al Arabi, elle passe de l'arabe au français. Elle a une gestuelle caméléon. Vous l'avez sûrement vue dans beaucoup de vidéos différentes. Elle s'est distinguée par notamment son audace à aborder des sujets très importants sociétaux en utilisant du coup l'humour comme un outil d'émancipation et de critique sociale.
Merci, ma très chère Asma, d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi, Jamel, c'est un plaisir.
Déjà pour commencer,
oui.
C'est quoi l'amour pour toi, Asma ?
Aïe, l'amour. Il y a que mon mari n'est pas dans la salle, Bède. Hein ? L'amour, ce aurait été d'être dans la salle. Alors, l'amour pour moi, c'est une bonne question, parce qu'en transition de couple avec enfant en bas âge, l'aspect inconditionnel de l'amour est central. Pour moi, l'amour, c'est la contemplation de l'autre. L'amour n'est pas utile ou utilitariste. C'est aimer la personne pour ce qu'elle est, vraiment. Comme si on était un observateur extérieur de cette personne. C'est pour ça que je parlais de contemplation.
C'est beau. Et c'est quoi ta conception de l'humour ?
À ma conception de l'humour, c'est drôle parce que je donnerais à peu près la même définition. Dans le sens où pour moi, l'humour, c'est aussi la contemplation de l'autre. Et c'est aussi se mettre dans la peau d'un observateur extérieur, de soi et des autres. Et arriver à capter l'essence de ce que les gens pensent être banal chez eux. Et d'en faire quelque chose d'unique, de spécial et d'extraordinaire en incarnant des personnages qui sont des gens qu'on connaît.
Il faut beaucoup d'amour pour faire de l'humour, finalement.
Tout à fait.
Ces 10 dernières années, on sait donc toutes et tous ici que l'humour marocain, il a été porté par des personnalités très diverses. Il y a eu évidemment Gad Elmaleh, il y a eu Saïd Nasseri, Hassan El-Fed, Jamel Debbouze, Mustapha Al-Atrassi, Amin Radi, Simos Darassi, il y en a eu plein. Mais quand même, on oublie souvent de citer les femmes. Sur les réseaux, il y a Qamar Saadawi, qui est sous le nom de Hamaka, si vous la connaissez. Lubna Jawhari, il y a eu l'indétrônable, bien sûr, Hanan Fadeli. Je trouve que c'est quand même toujours un peu sexiste dans les médias de se dire il y a les humoristes hommes d'un côté et après les humoristes femmes. Moi, je trouve que tu es la plus drôle, toutes catégories confondues. Alors, est-ce que l'humour doit avoir un genre ?
Moi, je passe mon temps à me travestir. Jade revient souvent, tu vois. Et pour Jade, l'humour et l'amour n'ont pas de genre, justement. Donc fais attention, mon petit chéri.
Est-ce qu'il y a un genre d'humour féminin et un genre d'humour masculin pour toi ?
Je pense pas, mais je pense que, en général, les hommes sont plus applaudis quand ils se travestissent. Parce que le fait de corrompre, entre guillemets, leur masculinité est quelque chose que la société, dont la société les félicite. C'est quelque chose qui est beaucoup plus souligné. Et on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que les femmes vont se rendre compte plus facilement que se travestir et mettre, si tu veux, en danger les canons de la beauté féminin. Parce que dans la plupart des sketchs, je suis moche, en fait. Et pas dans la vraie vie, comme vous avez pu le remarquer. Trilélicum, quelques secondes. Chauffons. Voilà. Non, mais c'est vrai, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Comment tu fais avec ton mari ?»« Mais comment je fais ?»« Soulé !»« Comment je fais ?» Alors, je fais. Et je fais très bien. On ne se rend pas compte du risque que, en tout cas, que les femmes prennent, celles que tu as citées, et Khamar et Hanan Fadeli que j'adore.
Et c'est quoi être une femme humoriste au Maroc aujourd'hui pour toi ?
Écoute, déjà, avoir des rêves et avoir ce qu'on appelle une vision pour soi ou des quêtes, c'est déjà quelque chose qui est difficile à gérer dans le cadre d'une famille et d'un couple. Vraiment. On a encore une grosse base de machisme qui est là, parfois qui est cute, de « oui, il est possessif, il est jaloux, il est… » Bon, mais qui l'est pas vraiment, en vrai. C'est difficile de vivre avec cette pression. Et quelque part, on vit aussi avec une image féminine de soi qu'on a l'impression de pas… de pas activer totalement, comme si on avait un potentiel féminin qui n'était pas activé ou qu'on n'incarnait pas correctement, parce que justement, on a une vie qui est différente, on a un sens de l'esthétique, ou pas du tout, je n'en ai pas, gars, qui est différent et qui peut être... en couple, ça peut être difficile à accepter, parce qu'il faut accepter le regard des autres. Et moi, le regard des autres, je n'en ai pas peur, je l'aime, au contraire. Donc, j'ai envie que les gens me voient tel que je suis et même tel que je ne suis pas, etc. Mais je veux dire, pour revenir à ta question, être une femme humoriste, bien sûr, c'est-à-dire dans le couple, la famille, la société. Après, moi, je le vis très bien, alhamdoulilah, mais parce que je pense aussi faire un vrai travail conscient de combat, de dépassement à l'intérieur.
Je voulais parler aussi du contenu propre à... Est-ce qu'il y a des... contenu humoristique, du matériau humoristique qui est écrit sur scène ou sur les vidéos, qui sont spécifiquement imputables aux femmes et ceux aux hommes. Parce qu'on dit aussi, il y a un répertoire incroyable de blagues très très salées au Maroc. Est-ce que les femmes aussi peuvent faire des blagues de cul, par exemple ?
De petit cul, oui. Parce que j'ai un petit cul. Écoute, moi, c'est ce que je fais hein, quand je joue la Bouchras, là. Bouchras de As. Qui se balade avec ses fesses comme ça, stah, au vu au sud de Jiren Kulhum, etc. Quelque part, c'est ça aussi. Tu as dit, il y a beaucoup de on-dits et de non-dits. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'on montre tout en ne montrant pas. Oui, mais tu ne peux pas aborder des thématiques pareilles de manière frontale. Après moi, c'est parce que j'ai commencé ça, j'avais 24 ans. C'était peut-être pas en fait les thématiques qui m'intéressaient. Et je fais vraiment en sorte d'aborder des sujets que je vis, sur lesquels j'ai une vraie légitimité, etc.
Mais cette question, dans tes sketchs aussi, une tonalité qui revient beaucoup, qui est celle de la dérision pour les femmes qui crachent les unes sur les autres. Moi, je voudrais en parler de ça, sur la question de celles qui entrent en rivalité, qui ne font que critiquer les tenues, le physique, la pilosité, le poids et les choix, en fait, tout simplement, des autres femmes. C'est aussi, une des conséquences du patriarcat, et donc vraiment quelque chose qui met en compétition les femmes entre elles. Donc, la question que je voulais te poser, c'est, selon toi... pourquoi tu penses qu'il devrait y avoir enfin une entrée en solidarité, une sororité au Maroc entre les femmes ?
Vu que c'est un modèle universel, je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre partout où on va. Il y a une culture de la performance, vraiment. Femmes, mères, etc. Il y a une culture Je décris souvent un personnage qui dit moi j'ai un mari à 27 ans, un mari, une villa, pas de crédit, tout ça, etc. C'est Spielberg qui a écrit mon destin. Parce que je pense qu'on aspire un peu à ce... Enfin, on aspire, non. On a respiré de cet air qui aspirait à ce, tu vois, à cet idéal-là. Donc, bien sûr qu'on est en compétition, étant donné qu'on est dans une logique productiviste. Il faut que tu sois à la maison, mais en même temps qu'il y ait une charlotte aux fraises, tu vois, qui soit en cours de préparation, et que le fils, tu l'allaites pendant 2 ans, mais que tes seins, ils ne soient pas là, ils soient là, tu vois. Et tout ça fait que, ouais, il y a cette culture de l'opposition, en fait, entre les femmes. Je pense de moins en moins. Pourquoi ? Parce que quand tu prends la parole et que tu te montres sous ton vrai jour le matin, avec tes jambes épilées ou mal épilées ou pas du tout, je pense que c'est une main, tu vois, une main poilue tendue vers l'autre pour qu'elle aussi puisse s'exprimer et se sentir parfaite en étant imparfaite.
Je me demande si tu pourrais te risquer un jour à faire des personnages qui pourraient être, par exemple, un peu plus, disons, subversifs, un peu plus compliqués à montrer à un plus grand public, c'est-à-dire des personnages assumés, par exemple, de femmes lesbiennes ou de prostituées.
Bien sûr, bah, c'est trop joli, hein, ça. C'est ça, c'est ce qu'il veut. Khlini tranquille, je n'ai pas de père ministre, tu vois. Non mais oui, écoute, bien sûr, je suis quelqu'un de très authentique. Déjà, Ada, c'est pas mon bon profil, Ada, que le public voit, c'est Ada, donc normalement, je ne devrais même pas te parler. Mais oui, bah, tu sais, je bosse sur des sketchs qui me plaisent à moi, et qui ne parle pas forcément à tout le monde. Et la maturité est venue aussi ces dernières années. Parce que forcément, quand tu commences un truc, tu commences avec une vidéo, la première qui avait bien marché, je crois que c'était il y a 6 ans ou 7 ans, c'était La La Land. Et là, tu te dis, ah tiens, c'est génial. Même si tu es authentique dans ce que tu fais, tu te dis, super, j'ai un créneau qui fonctionne et tout. Je vais rester sur les thématiques de la société qui touchent un maximum de monde.
Tu peux rappeler au public juste La La Land, c'était quoi le principe de la vidéo ?
Le principe, c'est qu'au Maroc, on a la réponse à tout et la même réponse pour rien, c'est-à-dire là. À chaque fois que quelqu'un pose une question, c'est genre, je suis comme l'accusé de réception, là, à ce moment-là, la réception, maintenant. Donc, et c'est une suite de là, voilà, et c'était à l'époque où le film La La Land était sorti.
Est-ce que tu penses que tu as un rôle, finalement, autre que juste humoristique purement, qui est social, qui est politique presque, à dire des choses importantes, en fait, sur les dysfonctionnements de la société, selon toi ?
Mais c'est important pour moi parce que mon temps compte pour moi. Si je voulais faire un job, j'en aurais choisi un autre peut-être où il y aurait moins d'âme, moins de corps et d'âme, parce que c'est quelque chose qui me prend toute mon énergie et qui implique aussi des concessions. Bon, comme tout dans la vie. Mais je veux dire, si je voulais quelque chose de stable, de classique, c'est pas ce que je recherche. Bien sûr qu'il y a un vrai engagement de ma part. J'ai envie de créer. Je pense que, alhamdoulilah, c'est génial. Il y a un vrai lien qui est créé avec les gens qui me suivent. Ils savent qu'il y a quelque chose de vrai, de positif, d'authentique, de... Et la notion de communauté est hyper importante pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont comme la famille, et ça peut vous paraître éloigné de la question de base, ça l'est, mais je le place quand même parce que c'est important aujourd'hui. Il y a tellement le monde est tellement sombre par moment et par région qu'avoir une communauté comme ça de lumière et de gens finalement qui sont alignés aussi avec moi, avec toi, avec d'être en quête de choses authentiques, de qu'est-ce que la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce que on est là pour chercher quoi, pour observer quoi, pour contempler quoi, quelles questions on est censé se poser, pour quelles réponses. C'était pour dire qu'il y avait évidemment un réel engagement sociétal, évidemment. Politique presque, mais finalement, oui, je veux dire, tous les acteurs aujourd'hui qui prennent la parole sur des sujets de société, font quelque chose qui s'apparente à de la politique ou qui devrait s'apparenter à de la politique.
Bon, tu sais, Jeans, c'est aussi un podcast qui parle beaucoup de spiritualité et d'islam, évidemment. C'est aussi pour ça que c'est aussi spécifique et unique en son genre, c'est que ça vient explorer différemment la question de l'islam, pas comme on nous l'a raconté ou pas comme on les voit dans les chaînes d'infos ou pas, voilà. Et donc, du coup, est-ce que pour toi, tu as un apport justement de cette spiritualité de l'islam, parce que je sais que tu es musulmane, tu as une forte spiritualité, un fort rapport avec Dieu qui te concerne. Est-ce que ça t'apporte quelque chose au quotidien, ça, justement, pour rester stable, pour te nourrir aussi autrement?
Oui, c'est central. Moi, je dis toujours que Dieu est mon manager, parce que j'ai perdu mon papa quand j'avais 11 ans. Bon, ça, c'est des choses, tu vois, c'est pas le destin le plus tragique du monde, mais j'ai toujours eu ce rapport de, ok, en fait, tout le monde peut disparaître. Elle est où la source, si tu veux? Pareil, l'inspiration peut disparaître. Elle est où la source? L'énergie peut disparaître. Et j'ai toujours été sensible à ces questionnements-là. Et c'est important pour moi aussi. Je pense que ne pas travailler que sur des personnages où tu vas avoir 50 000, 100 000 likes, partages, etc., c'est pas ça uniquement le succès. C'est top de toucher tout le monde. Mais partager aussi mon identité spécifique à moi, qui va pas forcément parler à tout le monde, mais qui va parler à tout le monde dans l'encouragement à aussi exprimer sa spécificité.
Il y a aussi, évidemment, je pense, quelque chose de très fort aussi à devenir maman. La question de la spiritualité, elle peut revenir, la question de la source aussi. Je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que tu as parlé souvent des conseils non sollicités. Quand tu es une femme enceinte, au Maroc, c'est omniprésent. Il y a la mère et la grand-mère qui savent toujours mieux faire que toi. Les copines qui reflètent l'image parfaite. Les médias qui poussent l'image aussi de la mère comme la seule à pouvoir faire le devoir de la parentalité. Alors qu'aujourd'hui, on est en pleine réforme de la Moudawana au Maroc. Donc c'est aussi une question importante, latente. Donc là, en gros, du début de la grossesse à
la fin de la vie.
À la fin de la vie, exactement. Comment tu penses que la maternité devrait être reconsidérée ou réapprochée ou réinventée, selon toi, qui puisse coller plus à ton vécu, en tout cas, un vécu des mères?
En tout cas, pour ma part, parce que je suis sûre que dans le public, il doit y avoir des mères parfaites. Ah non, moi, j'ai très bien vécu ma grossesse. Oui, je suis à mon 8e.
Accouché par voix basse.
Par voix basse, bien sûr. Moi, j'adore le fait d'être maman, vraiment. J'adore le fait d'être maman. J'aime mon fils à la folie. J'aurais simplement voulu avoir d'autres exemples de femmes qui partage un peu la difficulté de la chose. Moi, les personnes autour de moi qui sont les femmes enceintes, qui sont proches, me disent « tu m'as dégoûtée de la maternité mais merci ». Enfin, cette personne-là en question qui se reconnaîtra, je lui ai retourné ce merci-là parce que j'aurais voulu avoir plus d'insight sur ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre avant de le vivre. Donc, si quelqu'un l'a vécu et que tu t'apprêtes à le vivre, c'est top de pouvoir faire un partage. Et on revient aussi à la pression, pareil, pression féminine. On revient à... Ouais, et même, ça ne concerne pas que les femmes. En fait, à chaque fois que quelqu'un rencontre une difficulté dans la vie et qu'il la dépasse, il a toujours tendance. C'est un peu le syndrome du manager qui était stagiaire, on lui tapait dessus. Et après, ça devient le manager qui tape sur le stagiaire. C'est pareil pour tout. C'est ce qui fait qu'en fait, les gens sont frustrés et ne se sentent pas accomplis parce qu'on a toujours une fausse image mentale de ce que devrait être la réussite. Et l'autre ne te dit pas que ça va mal dans son couple ou que c'est la galère avec son enfant ou qu'il s'emmerde dans son taf ou qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie et tout. Si on pouvait partager un peu plus ces difficultés, ça donnerait un élan positif à tout le monde. Au lieu de protéger sa réussite, non, mon couple est parfait, mon truc est parfait, mon truc, ben non, tu vois. Partage, sois vrai. Ça ne permet que de donner une vague d'encouragement. Voilà.
Tout à fait. Bah, c'est très juste. Alors, une autre question qui me passe par la tête, c'est la question de la langue. La langue, l'arabe dialectal, qui, en fait, souvent est considérée comme une langue arabe qui est appauvrie, qui est rustre, qui est gutturale, etc. Moi, je trouve au contraire qu'il y a vraiment une musicalité humoristique de Dalija. Il y a une beauté de l'onomatopée, il y a une théâtralité de la façon avec laquelle on délivre l'information. Tzhanzez, comment tu traduis Tzhanzez? C'est difficile, quoi. Etzbergig, évidemment, aussi. Mais donc, tu ne trouves pas qu'il y a une richesse spécifique à l'arabe dialectal marocain, à Dalija, qui puisse être truffé d'humour en soi, en fait?
Moi, je trouve que justement, en fait, je me retrouve totalement dans Dalija. J'aime ce côté brut de décoffrage, brut, en fait. J'aime la violence verbale. Tu vois, quand tu insultes, tu as envie de bien insulter. pas commencer à traiter les gens de crétins. Enfin, voilà, je ne vais pas dire d'insultes, parce qu'il y a des... Oui. Des fessiers et des enfants, mais... et voilà, c'est top Dalija pour ça. Et moi, ce que j'adore, c'est que Dalija, elle n'en a rien à cirer des codes. C'est-à-dire que même dans le monde du corpo, Dalija, elle te fait un... ça fait un renfort d'Eric dès que l'email. Logiciel, ça fait une mise à jour. Mais il n'y a aucun respect, en fait, pour les mots, pour les langues, les anglicismes, les kouchimbedel, avec Dalija. J'adore.
C'est magnifique. Ça fait son haut potentiel comique aussi à la langue en elle-même, effectivement. Alors, bon, grâce à toi, aujourd'hui, et devant tout le monde, je vais pouvoir poser aussi la question à d'autres personnes qui vont nous rejoindre sur scène, notamment Madame Sinfoussi. Bonjour Madame Sinfoussi, vous êtes une femme de la haute bourgeoisie casablancaise, vous êtes mariée à un certain Fouzi. Hein.
Oui.
Vous pensez, Madame Sinfoussi, qu'il suffit de s'aimer pour se marier, ou plutôt même de se marier pour s'aimer?
Ah non, il suffit de ne pas s'aimer pour se marier, justement. Mon mari, Tlaketibé, c'était juste... Galia, ah, vous êtes la cousine de Njoa, qui est la sœur aînée de la grand-mère de Kautsar. Gtli, oui. Galia, bah, donc on se marie. Voilà. Au Maroc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un lien de parenté, même une miette de parenté. Fchibla, ça, non. L'alqaitia ou Jewish. Voilà. Ça permet de garder l'aspect consanguin, tu vois. لكن شي واحد عنده العينين الخضرين ça reste dans la famille quand même. شينيف بحال هكا زوين اكيلا يبقى ماشي تميلونج هذاك الشيء ويخسر لي الكاطو.
Très instructif, merci beaucoup Madame Sinfoussi. Alors je voulais aussi poser la question à Hanna Fabour. Hanna Fabour, vous êtes influenceuse. Vous êtes habituée à demander que tout soit gratuit pour vous. Même l'amour. Alors comment vous faites pour gérer au quotidien tous les mecs qui doivent vous écrire des messages de drague sur Instagram?
L'amour, je fais abor. Donc, je fais abor, on bête qui te négocie au fur et à mesure de la relation. Mais Fabor n'est pas intéressée par les relations amoureuses. Elle est intéressée par les collabs Fabor. C'est pas compliqué. Cookie, cupcake, Fabor. Giveaway, Fabor. Et ça donne le favoritisme. Les nouvelles faveurs qu'on accorde aux blogueuses, c'est le Fabor. Donc ça donne le favoritisme.
Alors, on va recevoir aussi Claude, 47 ans, qui est un Français vivant à Marrakech depuis 20 ans maintenant. Alors, selon vos dires, Claude, vous êtes tenancier d'un riad et d'une jeune gazelle du nom de Ahlam.
Ahlam.
Oui. Alors, comment vous arrivez, du coup, Claude, à vivre en couple mixte dans ce mélange de culture franco-marocaine?
Bah, Ahlam, elle ne comprend pas grand-chose, tu vois. Donc, Ahlam, tu lui donnes la carte de crédit, hein. Bah, je lui dis, t'achètes rien pour Mi, hein? Pas pour Mi. Mi, c'est sa mère. T'achètes rien pour Mi, Ahlam. Je te donne la carte de crédit. Mais touche pas à ça, c'est le Wi-Fi, là, tu vas pas comprendre, Ahlam. Mais bon, Ahlam, elle a des formes, hein? Elle est jeune, hein? Elle est sympa. Et puis, elle parle pas ma langue, en tout cas. Bah, je la comprends pas sur sa langue, donc voilà. Et Marrakech, bah, c'est la France, donc on est. On est à l'aise, hein? On est bien.
J'imagine. Alors, je vois depuis tout à l'heure dans le public gigoter, je reconnais, c'est Anas Fahimi. Anas, tu voulais absolument nous expliquer pourquoi les... Bah, tu voulais nous expliquer ce que c'était que les femmes.
En fait, une femme, c'est très simple. En fait, selon la data, tu as des cabines d'ostrade qui te donnent de la data. C'est hyper simple.
Par exemple, t'as un pourcentage de divorce qui est hyper élevé dans les couples où la femme, elle bosse. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas bossé à ça, mais tu vois? L'homme, il sort. L'homme, he provides, you know? Mais une femme, selon la data, tu vois, je te parle en comme... tu vois ce que je veux dire? Je te donne un truc transparent, de toute manière, je parle en chiffres. Je parle en chiffres, tu vois?
Ouais, j'ai compris. Ouais.
Mais une femme, ça reste une femme. Tu vois? Si tu la sors, c'est plus une femme. La féminité, tu vois, c'est plus une femme. Elle sait plus, c'est quoi, c'est un écureuil, elle sait plus, tu vois. Il faut lui dire que c'est une femme. Une femme, c'est une femme. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Après, je te parlerai des autres data par rapport à l'intelligence artificielle.
Ah non, non, c'est pas pour aujourd'hui. Non, non, merci. Alors, Sana, aussi, tu nous as rejoint. Salam alaikum, Sana, Mrababik. Je sais que là, c'est bientôt Noël et que ta directrice Valérie.
Valérie, qu'est-ce que c'est l'esprit de Noël?
Eh ben oui, justement.
Du coup, elle... L'esprit de Noël, qu'est-ce que tu dis, l'esprit, qu'est-ce que tu dis, fine?
J'ai entendu dire aussi, d'après Valérie, que, en gros, tu voulais trouver un mari.
Karim Aitli.
Eh ben voilà, c'est ça.
Allô? L'akhdama. Voilà, Kérim, bloqué sans raison. Et yallah, j'ai mes règles.
Mais donc, est-ce que c'est plus facile pour toi, de, chère Sana, de trouver un mari pour ne plus avoir à travailler? C'est ça que tu voulais ou...
Je trouve un mari. Donc, c'est lui qui me trouve et qui me perd et qui me retrouve et qui me perd. Femti, prends le petit chat papa orange. انا سوفون كنكون في قهوه البانينو كندير بوزديج ولكن فاليري كتصدعني
علاش
كتبقى تقول لي اللي هي ان ميل دان كليون كو تو نا با ريسو قلت لها فين قلت لي قلبي في كوريان ديزيرابل قلت لها بقى لي غير الزبل ديال جيميل بقى نقلب فيه Courrier indésirable, oui.
Alors, enfin, il y a aussi, bon, du coup, on ne pouvait pas le rater, hein, il y a les princes charmants et il y a le presque charmant, Jade, le dragueur très, très lourd.
Ouais.
Jade, bonjour. Donc, explique-moi juste Salut. Pourquoi tu aimes autant conquérir les femmes.
J'aime pas du tout, hein, en fait. Je désire simplement. Tu vois. Par exemple, en général, les femmes, je ne les reconnais pas de devant, tu vois. Je le reconnais derrière.
Ah oui.
Toujours, tu vois. Mmh. Et souvent,
comment tu dragues, du coup?
Ben, c'est de la poésie, des trucs, tu vois.
Ça, t'as l'air très poète.
Ouais. Genre, une meuf, elle rentre par la cage, je lui dis, j'aime ce pantalon qui te moule la moule, tu vois. Ouais. Et là, en général, bref, ce qui se passe à Darbaïza reste à Darbaïza.
Je pense que vous pouvez applaudir tous les personnages qui ont été invités. Alors,
merci.
On va conclure cet épisode. Mais avant, dans chaque épisode de Jeans, comme vous le savez sûrement dans la salle, on déconstruit toujours ensemble ce que j'appelle un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu dans ma vie. Alors, il y a un pote de pote qui est marocain à qui je disais que sa blague était sexiste et qu'elle ne faisait pas du tout rire. Et il m'a répondu « Ah non, mais si on ne peut plus faire des blagues sur les meufs, les noirs, les juifs, les arabes, les gays, les gros, les musulmans, on ne peut plus rien dire, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus d'humour. » Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place?
Moi, je pense que je suis quand même partisane, pas le courtisane, du rire de tout. Mais par contre, je pense que c'est quand même une posture. Moi, je le prends mal quand les gens me disent « Non, mais il ne faut pas rire de ça. » La dernière fois, je parlais de flatulence. Hein, et j'émettais l'option d'avoir des flatulences sonores, tu vois. Un truc qui fasse et sonnerie et tout, vu qu'on est dans la Apple Watch, voilà, tout ça. Et ma mère me disait « Non, mais tu ne peux pas échapper à les sujets à droite. » L'épée, les trucs à chôme, hein, des gens qui te regardent, ils vont être... Ben non, moi, ça me fait rire. Et les gens, ça les fait rire. Merci. Donc, en vrai, moi, j'aime rire de tout. Le seul truc, je trouve que c'est une question de posture, c'est une question d'intention, c'est une question de mise en danger de soi aussi. Si tu mets en danger ton identité, ça dépend de la relation aussi que tu as avec une personne. Si tu mets en danger ton identité et que tu es dans une autodérision inclusive, c'est vraiment rire de tout et de tous avec tout le monde, ce qui est un peu un idéal. Donc, c'est clair, mais si ton idéal de base, c'est ça, je répondrai pas, tu vois, de la même manière à quelqu'un qui me fait une blague sur X ou Y ou Z. Mais si c'est une, voilà, si une personne qui... s'il y a de la moquerie, et ça, c'est très subtil dans l'humour, c'est difficile de juger ou de mettre des règles. C'est pour ça que c'est aussi un art, je veux dire, à part entière de faire rire quand je carrasse. Parce que, non, mais... En vrai, je parle surtout des autres humoristes. Je ne parle pas forcément de moi là, en parlant de ça. Je parle des gens qui me font rire. C'est difficile de mettre des règles parce que deux personnes peuvent dire la même chose et incarner la même idée, pas être reçues de la même manière du tout. Et le rire, justement, comme tu l'as dit, ça permet de briser des tabous, ça permet de parler de choses qu'on n'arrive pas à dire par d'autres langages. Donc, il faut qu'on puisse parler de tout à travers l'humour. Mais évidemment, avec un public averti et en ayant fait le travail de bienveillance et de bonne intention et d'authenticité que cette grande mission implique.
C'est un très bon mot de la fin. Vous pouvez applaudir.
C'est bien.
Merci mille fois, Asma, d'avoir partagé
merci
ce moment
toi,
magique avec nous.
C'était alors avant de vous laisser, moment.
Oui, c'est un super moment. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci ouais. à tous.
Avant de vous laisser, retenez juste une chose, c'est que l'amour, ça ne ment pas. Ça vous arrive comme un fou rire, parce que on peut être fou amoureux et en fou rire. L'amour et l'humour, ça nous sauve. Et si Dieu nous fait rire, comme je disais en introduction. Les croyantes et les croyants diraient que l'amour, c'est Dieu. Vous savez qu'en islam, un des plus grands noms de Dieu, d'Allah, c'est l'Wadoud, Dieu l'aimant, l'aimé. Il aime toutes ses créations à égalité, dans toutes nos formes de vie. Donc, si on uniformise l'humour, on obtient la dictature de l'austérité, de la sévérité, c'est-à-dire, en fait, la mort à petit feu. Si on uniformise l'amour à une seule façon d'aimer et de le vivre, on tue l'amour. Et quand on tue l'amour, croyez-moi, on met feu à toute l'humanité. Alors moi, je vous propose aujourd'hui, avant de partir, de raviver l'humanité en riant et en nous aimant librement, au présent, à l'imparfait et surtout sans conditionnel. Donc, on va se presser de rire de nous, de peur d'être obligé d'en pleurer. Et puis, j'ai envie de dire que nul n'est censé ignorer la seule loi qui nous régit toutes et tous, c'est la loi d'amour. Et un beau jour, Inch'Allah, l'amour fera loi. Et tout le monde rira. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte @jeans_podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. À bientôt dans Jeans Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.